Donc ce soir, j'ai un thème où je voudrais un petit peu parler de ce que notre ministère croit particulièrement. Et ça a peut-être un petit peu un lien par ce qui se passe en Israël, parce que chaque fois que quelque chose d'important arrive à Israël, le monde entier se sent concerné et ça devient un sujet principal. Et puis, il y a quelque chose que de temps à autre, je demande aux personnes quand on évangélise, vous croyez que vous allez mourir? Et puis, les gens, mais c'est normal, c'est presque normal, mais on croit qu'on va mourir. Mais qu'est-ce qui nous arrive après notre mort? Et c'est pour ça que j'avais trouvé utile, j'ai depuis longtemps un livret qui était énorme. Il fait 72 pages et je veux parler seulement de 21 pages que j'ai traduites. Et c'est un livret que... un résumé de 21 pages. Et c'est un nommé... Je ne sais pas si Horacio, tu l'as connu, Dr. Lewis? Oui. Il est venu ici. Il est venu à l'église aussi. Et je me souviens, il est venu quand il y avait une rencontre du G7 à Genève. Ouais. Puis on avait. Non. Ça, je me souviens pas. Et je sais qu'on est allé au-dessus de la Servette, hein, dans un lieu de culte où il a prêché Dr. Lewis. Et pour y aller, on a dû faire des détours parce que la ville était bloquée. Il y avait des manifestations partout sur le G7. Enfin, ça c'est pour présenter le Dr. Lewis qui était... À un moment donné, pasteur Stevens, il était suppléant de Dr. Stevens même à l'époque. Donc, il a étudié ça à fond dans ce livret sur l'enlèvement de l'Église pré-tribulationniste. Donc notre ministère est de croyance pré-tribulationniste. Et donc dans son introduction, il met certains points que je vais citer ici, que l'eschatologie est une discipline théologique captivante et fascinante. Et ça capte l'attention de beaucoup de gens. Il y a l'incertitude de l'avenir, c'est une préoccupation pour beaucoup. Qu'arrivera-t-il au monde? Jésus viendra-t-il? Dieu va-t-il juger le monde? Les êtres humains seront-ils confrontés à la responsabilité de leurs péchés? Et il y a certaines personnes qui désirent une future délivrance pour leurs âmes troublées. D'autres encore croient que rien ne va se passer et que quiconque croit le contraire est un marchand de mauvais augure, colportant des tactiques alarmistes pour mettre les gens sous esclavage. C'est vrai qu'il y a peut-être dans les sphères de l'Ouest, il y a une énorme foule de gens qui pensent ça. C'est de la foutaise, la fin des temps. Mais nous devons être quand même sincères et honnêtes. Quiconque sans Christ, il vit dans la peur de la mort. Quand la mort est sur la porte, de, sur le seuil de la personne, il y a une crainte qui se fait. Et ceux qui croient, comme par exemple les témoins de Jéhovah, que l'âme sera annihilée, c'est-à-dire quand on meurt, il y a tout qui disparaît, après la mort, sont trompés par le diable. Et donc, tout chrétien qui croit en la parole de Dieu s'est probablement posé la question et il s'interroge ce que la Bible dit au sujet de la vie après la mort. Voilà. Et nous savons qu'il y a un espoir après la tombe. Nous le savons. C'est pourquoi la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est une espérance si précieuse et si réconfortante. Oui, la foi que Jésus est mort et ressuscité, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité, c'est réconfortant pour nous. Et nous savons que Jésus revient pour son Église. C'est la Bible parle beaucoup, beaucoup, c'est pour l'Église qu'il revient. Et ça, c'est notre espérance de gloire. Il y a un paradis, mais il y a aussi un enfer. L'Église est divisée sur la question du retour du Seigneur depuis son début. Et il y a des confusions qui se promènent dans les esprits. Et le problème, il réside dans la mauvaise interprétation de ce que les Écritures enseignent. Et nous devons penser littéralement sur ce qu'il dit Dieu. L'autre manière d'interpréter, je ne sais pas si on peut dire le protestantisme mondial ou le catholicisme mondial, s'ils n'ont pas fait une interprétation plutôt allégorique de ce qui nous attend. Mais dans ce livret, il est vraiment insisté sur l'interprétation littéraliste. Ceux qui croient vraiment ça, ils ont un espoir certain. Et ça renforce notre espoir. Malgré une quantité immense de documents qui sont publiés régulièrement sur l'eschatologie, ce domaine précis qui est le moment et la pertinence de l'enlèvement de l'Église n'est pas correctement abordé vraiment. Et la question de l'enlèvement et les promesses qui l'entourent ont été mal comprises et promues comme un concept de folie venant des dispensationaliste. Alors, vous connaissez le terme dispensation ? Oui. Donc, pour résumer, il y en a six qu'on connaît. C'est l'innocence, conscience ou responsabilité, gouvernement humain, juste après le déluge, la promesse, la loi. Et maintenant, nous sommes dans la sixième, l'Église. Voilà. Donc, ça, c'est important comme fondement pour la réflexion de l'enlèvement. Et il y a même des théologiens qui ont promulgué des doctrines erronées et jusqu'à se moquer ils ont une attitude moqueuse vis-à-vis de l'approche dispensationnelle du déroulement de l'histoire. Et les théologiens clés Il parle évidemment des États-Unis. Conservateurs ont été discrédités au point d'être intimidés parce qu'ils croient que Jésus-Christ va enlever son Église de la période avant la grande tribulation. Donc ça, c'est très important. La grande tribulation, à la rigueur, ça ne nous intéresse pas. Et l'Église va être enlevée. Mais c'est bien de savoir que ça a quand même été mis dans la Bible pour nous rassurer. Même les apôtres, ils étaient convaincus qu'il allait revenir avant l'Église, avant que l'Église allait être enlevée, avant qu'il y ait la grande tribulation. Et Jésus-Christ, il a aussi parlé de ça. En raison d'un manque d'interprétation appropriée, qui est surprenant, des multitudes sont dans l'erreur concernant ce retour du Christ, avec un grand soutien aux États-Unis de la part des dirigeants chrétiens et clés et des télévangélistes. Ils font des campagnes d'évangélisation par télévision et ils promulguent une fausse doctrine par rapport à l'enlèvement de l'Église. La venue du Seigneur Jésus-Christ dans les nuées, dans l'air, pour recevoir son Église hors de ce monde, avant qu'une période de grande tribulation ne contrôle la terre, est la prémisse claire des Saintes Écritures. Maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails de ce que j'ai trouvé dans ce livret. C'est une doctrine, l'enlèvement pré-tribulationniste. Nous savons qu'il y a d'autres... il y a même au milieu, mi-pré-tribulationniste, mais je ne veux pas aborder quelque chose qui de toute façon, je ne le crois pas. Tous ceux qui ont fait confiance à Jésus-Christ comme leur sauveur et qui croient dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ils vont faire partie de ceux qui auront été enlevés pour être avec lui comme son corps glorieux et ensuite son épouse. Donc, dès qu'on est enlevé, il y aura les noces de l'agneau. Ce corps glorieux comprend des gentils, des juifs, des esclaves ou des gens libres, hommes ou femmes. Bien sûr que ça concerne la conversion à Christ pour toutes ces personnes. Et ce sera un événement d'une extrême rapidité. Il y a 1 Corinthiens 15, 51 à 53 qui parle de ça. Également 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Et pour la rapidité, je vous lis que le verset 52 de 1 Corinthiens, qui est le chapitre de la résurrection, et qui dit « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. » Ensuite, la prophétie de la 70e semaine de Daniel révèle la grande tribulation. C'est en Daniel 9 qu'on peut lire tout ça. Dans ce chapitre, le prophète Daniel ne parle pas du tout de l'Église. Nous comprenons de ce fait que celle-ci est exclue de la période de la grande tribulation. Du fait qu'il ne parle pas de l'Église, ça veut dire que l'Église ne subit pas cette grande tribulation. La colère de Dieu, le Père, envers le péché dans l'Église universelle, donc nous aussi, croyantes, a été complètement infligé en jugement sur le précieux Fils de Dieu au calvaire. Jésus-Christ a payé toute la peine, tout ce que méritent ses péchés, et a pris toute la colère de Dieu sur lui-même à Golgotha pour le pécheur et son péché. Maintenant, Israël il en est question énormément dans la Bible. 4/5 des Saintes Écritures parlent d'Israël. Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ, leur Messie, lors de son premier avènement. Et maintenant, le peuple juif est à l'échelle nationale, donc Israël, sous un aveuglement spirituel. Et dans ce chapitre 9 de Daniel, on peut calculer, il y a 483 des 70 semaines, c'est-à-dire c'est 69 semaines, parce qu'il exprime les années ou le bloc d'années en semaines. Et donc ces 483 premières années traitent exclusivement d'Israël en tant que nation. Nous sommes maintenant dans une période de silence concernant Israël, nous, l'Église. C'est l'âge de l'Église. Et peu de temps après que l'Église soit retirée pour être avec Jésus, Dieu déversera la colère et le jugement sur l'être humain incrédule, ainsi que les nations incrédules. Apocalypse 3, 10 nous dit, mais ce verset, on va le revoir dans d'autres réflexions. Il parle à une église là. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Ensuite, il y a des passages qui montrent comment Dieu va se venger du péché, en fait. En Jérémie 25, 32 à 33. Alors là, je vais lire quelques versets, mais c'est une traduction de versets parce que le livret utilise la Bible en anglais amplifiée. Donc, il utilise des termes qui sont plus forts même que les versets qui sont concernés. Donc, Jérémie 25, 32 à 33. J'ai traduit plus ou moins. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, le mal s'étendra de nation en nation, et une grande tempête s'élèvera en tourbillonnant des extrémités de la terre. Et les tués du Seigneur seront en ce jour d'un bout à l'autre de la terre. Donc il y aura plein de tués, même s'ils ne seront ni pleurés, ni rassemblés, ni enterrés. Leurs corps morts seront, et il utilise un terme qui se traduit par excrétés, par terre. Et oui, c'est vrai, dans un verset aussi en Ésaïe 66, 16, Darby utilise à la place d'excrété, ils seront du fumier sur la face du sol. Ensuite, l'autre passage, Ésaïe 26, 21. Car voici, le Seigneur sort de sa place, c'est-à-dire le ciel. Ésaïe 26, 21. Donc le Seigneur sort de sa place, c'est-à-dire du ciel, pour punir les habitants de la terre pour leur iniquité. La terre aussi dévoilera le sang versé sur elle et ne couvrira plus ses morts et ne cachera plus sa culpabilité. Terrible, hein? Il sera pas tendre, hein, Dieu, dans cette période. Par conséquent, alors ça c'est encore une traduction amplifiée de 2 Thessaloniciens 2, 11 et 12. Par conséquent, Dieu envoie sur eux une influence trompeuse, un travail d'erreur et une forte illusion pour leur faire croire ce qui est faux, afin que tous ceux qui n'ont pas cru, qui ont refusé d'adhérer, de faire confiance et de se fier à la vérité, mais au lieu de cela, se complaisaient dans l'injustice afin que tout cela soit jugé et condamné. Donc ça, c'est clairement le groupe dont la grande tribulation qui est concernée par ça. Ensuite, la grande tribulation, Dr. Lewis, il donne une définition pour différencier de des tribulations que nous avons. Il dit, la grande tribulation n'est pas simplement une intensification des épreuves, des pressions, des perturbations, des troubles dont l'Église souffre actuellement, dont nous souffrons actuellement. Peu importe l'ampleur de cela, aucune de ces souffrances ne peut se comparer à la terreur et au chagrin accablant de la grande tribulation. Les conditions horribles de la grande tribulation, même le monde ne les a jamais connues. Il n'y a jamais eu de... Maintenant, on entend des horreurs sur ce qui s'est passé le 7 octobre, mais apparemment, ça sera pire durant la grande tribulation. Les terreurs, les méchancetés, les meurtres et tout ça. Donc, une période de 7 ans de terribles jugements sur la terre, ça, c'est ça que ça concerne. Et ça coïncide avec l'accomplissement de la prophétie de Daniel qui parle de la dernière semaine ou la 70e semaine de Daniel au chapitre 9 de Daniel. Et déjà dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de fois, il y a la grande tribulation, elle est désignée par le jour du Seigneur, ou ce jour-là, ou encore le grand jour. Et dans l'Ancien Testament, il y a peut-être, moi j'ai pas compté, mais lui, il par rapport à ceux qu'il avait donnés, il a dit, ce jour est mentionné 75 fois autrefois dans l'Ancien Testament. Donc, c'est près d'une centaine de fois que ça y figure. Mais le Nouveau Testament l'utilise aussi. Donc, on peut pas dire que c'est la grande tribulation, c'est juste un mythe, un terme. C'est vraiment un moment donné que Dieu prédit. Et comme j'ai déjà dit, c'est une période distincte de troubles tels que jamais expérimentés auparavant, qui prépare le terrain pour la seconde venue de Christ. Et nous savons que la seconde venue de Christ, c'est, il vient en deux étapes. Et d'abord, il vient dans les airs, il nous enlève, et nous, on ne vit pas ce qui vient dans les sept ans qui suivent. Et après, il est vraiment de retour. Il est à la porte d'ouverture du millénium. Et ceux qui prétendent le contraire, que le croyant ne serait pas exempté de ce temps de la grande tribulation, ils oublient quelque chose. Ils oublient de réaliser la position présente du croyant. Alors, il y a trois points. Position présente du croyant. Chaque croyant est parfaitement justifié par la foi. Chaque croyant a reçu une position de sanctification. Vous savez que c'est assez... Il y a sanctification positionnelle, progressive et finale. Et nous, on a reçu une position de sanctification. Chaque croyant a été déclaré être en Christ. Alors, en Christ, on est crucifié, on a vécu comme si on avait été avec lui là-dedans. Donc, Christ ne va pas être attaqué durant la grande tribulation. Donc, nous non plus. Et il y a encore un autre aspect d'incohérence. Ce serait incohérent de la part de Dieu. Figurons-nous que le moment où ça arrive, la grande tribulation, l'Église du moment sera qu'une infime partie de tous les 2000 ans d'Église. Et dans les 2000 ans d'Église, il y a tant et tant de croyants enterrés dans la foi, qui croyaient en Jésus. Et que juste le dernier bout va affronter la grande tribulation, c'est incohérent aussi. Hein? En 1 Thessaloniciens 5, 9, nous lisons « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc la colère, c'est aussi une expression pour la partie grande tribulation. Et de nouveau le verset Apocalypse 3, 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve ou la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Romains 5, 9, « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Et des versets qui appuient aussi cette vérité, il y a Ésaïe 43, 25 et 44, 22. Le 43, 25, c'est Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. 44, 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Et Michée 7, 18, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Et tout ça, ça souligne que dès qu'on est croyant, on échappe à cette menace de la grande tribulation. Et nous savons, on est 1 Thessaloniciens 4:18, que nous devons nous consoler les uns les autres par ces paroles. Les caractéristiques de la période de la grande tribulation ont 12 points. Je vous donne que les titres. Premier point, c'est il y aura durant ces 7 ans une fédération. C'est pas forcément dans l'ordre, d'après ce que je comprends moi, parce que des fois ces chapitres dans Apocalypse paraissent désordonnés, mais en fait ça se passe peut-être différemment. Je peux pas le dire ça avec certitude. Et donc le premier point, c'est une fédération d'États de l'Europe en un empire romain reconstitué. Et ça, c'est Daniel 2 et Daniel 7 qui expliquent cela. Quand Daniel a expliqué le rêve de la statue, et en fait la vision des 4 bêtes en Daniel 7, dont la 4e bête a 10 cornes, c'est la même idée. Apocalypse 13, les versets 1 à 10, présentent le règne intégral. Donc c'est que l'Antichrist qui régnera durant 42 mois. C'est-à-dire, c'est la deuxième moitié des 7 ans. Deuxième caractéristique, il y a un dirigeant politique de l'Empire de reconstitué qui fera une solide alliance avec Israël. Celle-ci sera rompue plus tard. Donc, actuellement, si on pense à ce qui se passe en Israël, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et nous ne le vivrons même pas. C'est une prophétie que nous ne vivrons pas parce que nous croyons. Mais quand ça arrivera, donc ça c'est en Daniel 9, 27, il fera une solidation, alliance avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire c'est 7 ans. Les semaines, des fois, ils représentent un groupe d'années. Des fois, oui, 70 semaines. Donc ici, c'est 7 ans pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc ça, c'est la deuxième moitié qu'on peut lire dans Apocalypse 13, versets 1 à 10, que j'ai déjà cité. Troisièmement, il y aura un système de fausse religion qui sera mis en place sous un faux prophète. Daniel 11, 40b à 45, si vous voulez lire ça. Et ce passage, il parle de ceux qui vont faire la guerre depuis le nord. Le roi du Septentrion fera la guerre sans merci. Et en Apocalypse, la suite, le verset 11 à 18, il y a comme un miracle de la part de la bête. La deuxième bête à deux cornes ranime la première bête qui était morte. Donc, il singe la résurrection de Christ, en fait, le diable, durant cette période. Et pour que tout le monde l'adore et reçoive la marque du nom ou du nombre de son nom. Et c'est là qu'apparaît le fameux 666. Quatrièmement, il y aura le jugement des sceaux selon Apocalypse 6. Cinquièmement, des évangélistes juifs sont suscités et nous savons que leur nombre sera de 144 000 et ça vous le trouvez en Apocalypse 7. Sixièmement, les jugements des sept trompettes, Apocalypse chapitre 8 à chapitre 11. Septièmement, les deux témoins de Dieu sont suscités, et ça, faudrait que j'ouvre ma Bible, ou quelqu'un peut me le lire peut-être, en Apocalypse 11, 3 à 4. C'est durant 3 ans et demi. Quelqu'un peut me le lire. Apocalypse 11, versets 3 et 4.
J'accorderai à mes deux témoins le don de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont là les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
D'accord, merci. Et bon, ce passage, ça me rappelle quelque chose en Zacharie, je crois. Hein, l'olivier avec les deux, le chandelier avec les deux oliviers. Voilà. Et donc ça, c'est le septième, la septième caractéristique. Huitièmement, il y a Israël qui sera persécuté. Donc, ces 144 000 vont subir des malheurs. Je crois qu'ils vont tous être... comment on appelle martyrs, voilà, martyrisés. La persécution d'Israël, Jérémie 30, verset 7, « Malheur, car ce jour est grand. » Il parle bien de ce jour. Il n'y en a point eu de semblable. Et ce qu'on a déjà dit, que ça sera horrible. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Neuvièmement, il y a les jugements des coupes de colère selon Apocalypse 16. Et dixièmement, la fausse église est renversée en Apocalypse 17 et 18, les chapitres. Et j'ai regardé le début du chapitre 17, parle de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et au verset 18 de ce chapitre, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Donc il y aura un mélange de religion et politique. Et je crois qu'il dit qu'elle ne sera plus. Donc c'est l'Église, la fausse Église, elle est dirigée par le politique. Et Dieu n'a jamais voulu ça, que les rois soient sacrificateurs. Ensuite, onzième caractéristique, il y aura la fameuse bataille d'Armageddon. Et si vous voulez lire les horreurs de cette bataille, c'est Ézéchiel 38 et 39, les chapitres. Et pour finir, à la dernière position, la prédication de l'évangile du royaume, comme Matthieu 24, 14 le dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, je vais sauter un chapitre là parce que on en est où? Presque une heure déjà. Et pourquoi Dieu amène cette colère, amène cette grande tribulation? Et il y a au moins 6 objectifs pour la mise en œuvre de cette période. Première raison, c'est pour accomplir la prophétie de la 70e semaine de Daniel. Jérémie 38, j'allais dire 30 août, 38, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ça, c'est le phénomène qu'on observe depuis la fin de l'Holocauste. C'est le retour d'Israël. Et là, il dit, il brisera le joug sur le dos des Juifs et il détachera leurs liens. Et il n'y aura plus de domination d'étrangers. Deuxième objectif, c'est pour préparer Israël pour leur Messie. Alors là, c'est un verset qui est assez curieux pour moi, mais bon, je comprends quand même. Malachie 4, 5, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Et ça montre que Israël actuellement, bon, ils ont déjà subi pas mal de choses, les Juifs, mais c'est pas fini jusqu'à ce qu'ils plient le genou pour recevoir Christ. Hein. Troisièmement, objectif pour provoquer la conversion d'une masse de croyants juifs. C'est un peu la suite de le résultat de la préparation. Et ça, il cite un verset en Deutéronome 30, verset 5. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et vous savez que dans l'Évangile, je pense que c'est dans Jean, Jésus, il a fait répéter cette loi pour Israël par un pharisien où il y avait un dialogue et qui répétait ce verset en fait aussi. Et pour le moment, il faut croire que nation Israël actuelle ne n'aime pas encore l'Éternel comme il devrait l'aimer, parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Quatrième objectif, c'est pour accomplir les prophéties concernant Israël et le règne de Christ sur la terre durant 1000 ans. Oh, il y a plein de versets là-dessus, je passe outre les versets, on va bientôt terminer. Cinquième objectif, pour permettre au ministère de l'iniquité de suivre son cours pour un très bref moment, sans retenue. Ça, c'est en 2 Thessaloniciens 2, 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 7 dans le même chapitre. Car le mystère de l'iniquité, dans l'amplification, ils ont mis ce principe caché de rébellion contre l'autorité établie, agit déjà. Mais il est déjà retenu aussi dans l'amplification. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et finalement, pour déverser le jugement sur les nations non croyantes. Aussi Apocalypse 3, 10, là il dit qu'il garde cette église, mais il éprouve les habitants de la terre. Voilà, c'est tout. Ça vous suffit ?